Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Cette semaine encore, ça va être des textes à moi, comme ça, au hasard. Et puis, ces textes seront accompagnés par Jean-Sébastien Bach. Et puis, entre les textes, et on va pas surtout pas s'en priver, quelqu'un que j'aime bien, il y aura que des chansons de Yves Jamais. D'abord une première, d'ailleurs.
La petite clope qui tue le spleen vient de me réveiller un air. Quelques accords que j'assassine, sur lesquels je pose mes vers. Sans les casser, je les entasse dans des octosyllabes morts, en attendant que je trépasse d'en avoir apprécié le corps. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Je dis là que je me ratatine, je vois mon avenir en vain. Toutes mes émotions s'avident, mes vers en deviennent divins. Sur mes mots je pose mon prose et propose un deal à la lune. Que Pierrot nous lâche les choses et qu'il veuille nous laisser sa plume. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. La première fois que je t'ai vu, je devais avoir la gueule dans le cul. Pour m'être laissé ainsi tenter, fallait-il que je sois bourré? Fallait-il que tu me blesses? Je ne veux pas y penser. Fallait-il que tu me baisses si bien que je suis resté? Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Le cœur et le corps avachis, me voilà donc sans toi chez nous. Dans des relents de Givenchy, j'écris des trucs sur le dégoût. Et ce soir, si ma muse est brune, je voudrais la boire sur l'île, ne garder d'elle que l'écu, souvenir d'un oubli. Et ce soir, si ma muse est brune, je voudrais la boire sur l'île, ne garder d'elle que l'écu, souvenir d'un oubli. Et ce soir, si ma muse est brune, je voudrais la boire sur l'île, ne garder d'elle que l'écu, souvenir d'un oubli. Et ce soir, c'est ma muse brune, je voudrais la boire sur l'île, ne garder d'elle que l'écu, souvenir d'un oubli. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et je bois, et je bois, et je bois.
Eh ben, le hasard fait bien les choses parce que le premier texte que je vais vous lire a pour titre Le vin. En ce moment, j'en ai contre les curés, moi. C'est pas que je sois rancunier ni passéiste, mais le coup de la terre plate, je digère pas. Je comprends pas. Je sais bien, ils n'étaient pas très évolués à l'époque, les Français moyens. Mais faire croire à n'importe quel con que la terre est plate, ça tient du record. Moi, je le vois bien, là, hein, assis sur ma chaise, sur le pas de ma porte. Hein, la rue monte. Ouais, ça monte. C'est pas plat. Et c'est un vieux cycliste qui vous dit ça. Hein, CQFD, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, cartésien, je suis. Cartésien. Cartésien, je resterai et rien ne m'en fera démordre. L'intérêt basse, ouais, ça, je veux bien. L'intérêt grasse, ça dépend où, mais c'est pas faux. L'intérêt sèche, ça, c'est relatif. Mon dosier, là, par contre, ouais, lui, mais la terre, elle est en aucun cas plate, hein? Non, non, mais sérieusement, même si je reste pas assis devant ma porte, si je parcours le monde, je vois bien que ça monte, que ça descend, que ça tourne à droite, à gauche. C'est pas plat du tout, enfin, sauf peut-être en Beauce, et encore. Et puis il y a la science qui, avec tous ses calculs à la con auxquels on comprend rien du tout, prouve bien qu'elle est ronde, cette putain de terre, hein. Ronde comme une queue de pelle, ouais. C'est ça la vérité et le pourquoi du comment de ce grand bordel. Je vais vous expliquer. La vigne, ça marche pas que dans un sens. La terre, elle est shootée au pinard. Et c'est pour ça qu'elle tourne autour du soleil. Et puis en plus, ça fait mûrir les raisins pour ceux qui sont dessus puissent se bourrer la gueule et ainsi avoir une bonne raison d'avoir le tourné. Ah, parce que vous, vous en êtes jamais aperçu, hein. Mais le spectacle du monde, ça donne le tournis. C'est à gerber. Et s'il n'y avait pas le vin, eh ben ce serait quasi insupportable. Tiens, c'est une des raisons du mythe de Noé dans la religion chrétienne. L'Église, elle s'est dit, si on veut leur faire croire que la terre est plate, à jeun, ils ont le tournis, faisons-les boire, et c'est au vin qu'ils attribueront la chose. Et aussitôt dit, aussitôt fait, une couche de Noé, une couche de vin de messe, ceci est mon corps, ceci est mon sang, etc., etc. Et puis, c'est qu'il n'est pas si mauvais que ça, ce petit vin de messe, hein. Et puis, petit à petit, tout le monde y prend goût, et emballé, c'est pesé, et dorénavant, eh ben, si t'as le tournis, c'est que t'as trop bu, et puis l'affaire, elle est dans la poche. Ah, il est évident que cette politique, disons, a eu des répercussions économiques, hein, bien sûr, avec le développement de toute une infrastructure du vin, des vignerons, des négociants, des verriers, des embouteilleurs, des ouvriers agricoles, des fabricants d'engrais et de pesticides, des banquiers du crédit agricole, des patrons de bars, des médecins spécialistes de la cirrhose, des transporteurs routiers, des fabricants de tuyaux, de pompes, de camions, de foudre et de tonneaux, des fabricants de casquettes pour vignerons, des fabricants de sulfateuses, de sulfiteuses, des fabricants d'embouts de manches de sécateurs, des employés du crédit agricole, des épiciers, des grandes surfaces, des inspecteurs des impôts, des ministres des finances, et puis j'en passe, hein, c'est une économie tout entière qui est concernée par le vin, faut pas croire. Et puis politiquement, parce que les gouvernants ne se privèrent pas d'utiliser le vin pour étourdir les masses. Hein? Ah, si le pinard avait pas gagné 14-18, hein? Hein? C'est une guerre qui, soit dit en passant, a permis d'une certaine façon de résoudre la crise des vignerons de 1907. Ouais, et on connaît pas tout à ce sujet. Et je suis bien sûr que plus d'un traité, d'une révolution ou d'une loi de l'Assemblée nationale, enfin de toutes ces décisions qui scellent le destin du monde, ont été prises à cause du vin et de sa culture et de son économie et surtout de ses effets. Ah ouais, c'est écologique aussi, hélas. Car comme je l'ai dit plus haut, la vigne marche à double sens. Eh ouais, suivant cela, les leçons de la table d'émeraude du trois fois grand Hermès. Ouais, je cite de mémoire là, mais il disait, le grand Hermès, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ou à moins qu'il ait dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Enfin bon, ça change pas grand-chose quand même. Mais je suis jamais arrivé à savoir dans quel sens ça marchait exactement, la phrase en question. Mais revenons à notre vigne. Vigne qui, si elle applique les principes du grand Hermès Trismégiste, produira en terre de quoi coller une sacrée biture à notre mère à tous, hein. Or, puisque comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, plus on produit en haut, plus on produit en bas, hein. Alors seulement, voilà, hein, en haut, la population augmente, donc forcément la consommation aussi. Mais en bas, elle est toute seule, la terre, et elle doit consommer tout à elle toute seule. Déjà que dans le temps elle tournait, alors maintenant, tu penses, même les surproductions qu'elle doit se taper, la terre. Ah, pas de quota de distillation, hein, pas de prime dans ses pages, non, non. Tout en direct, du producteur au consommateur. Ça a l'air bête comme ça, mais les conséquences, hein. Évidemment, plus la terre buvait, plus ça tournait, hein. Et plus ça tournait dessous, plus ça tournait dessus. Pour supporter à la surface, on buvait de plus en plus, hein. On produisait donc plus, et comme les effets produisent les mêmes causes, une sorte de mouvement perpétuel en quelque sorte, ça explique pas mal de choses, hein. C'est terrible, hein, l'obscurantisme. Car il est évident que quand il dit « et pourtant elle tourne », le brave Copernic ne faisait qu'énoncer une évidence que tout être humain vivant et à jeun, c'est tout. Et puis comment il aurait pu pas être à jeun, Copernic, hein, lui qui venait de passer tant de temps dans les geôles de l'Inquisition, hein, subissant sans discontinuer le supplice de l'eau, hein, régime qui est bien connu pour faire baisser de façon considérable, pour pas dire absolue, le taux de gamma AGT. Le supplice de l'eau, c'est terrible. Figurez-vous que c'est dans ces dernières années là que nous vivons qu'il a été établi de façon scientifique que le taux d'alcool absorbé par un humain est nécessaire pour contrecarrer le tournis dû au taux d'alcoolémie de la Terre est de 0,5 g. Au-dessus, le tournis dû à l'alcool consommé entre en décalage avec le tournis terrestre. Voilà, ce qui induit une modification du temps et procure à haute dose une sensation d'oubli. Comme si rien ne s'était passé. Voilà, on appelle ça ce phénomène-là, on appelle ça coma éthylique, vous voyez. Alors comme moi, vous n'avez pas besoin d'écouter ou de lire de scabreuses explications. Vous aussi, vous avez éprouvé un matin, en vous réveillant, cet écœurement caractéristique que procure le tournis terrestre. Comme vous n'avez pas encore bu ce jour-là, ça peut être en aucun cas le vin à ingurgiter qui peut en être la cause, hein. Ce phénomène est d'ailleurs plus accentué, plus net et plus remarquable les lendemains des jours où la consommation est forte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce qui prouve bien que c'est l'arrêt d'absorption de vin qui provoque la sensation de tournis, voire la nausée, et non pas le contraire, quoi. C'est par expérience que la science et la connaissance progressent, quoi. Mais néanmoins, il s'agit de ne pas oublier que nos anciens détenaient une science qu'ils exprimaient dans des proverbes, des sentences, des paraboles. Tiens, la vérité est dans le vin, par exemple. Hein ? Hein ? Nombreux sont les alchimistes qui ont vainement recherché le sujet des sages, la matière à laquelle s'applique la recherche même de cette science. Alors qu'il est clair que cette phrase en donne la clé. Ah ouais, vous me rétorquerez qu'il est dit aussi « la vérité sort du puits ». Oh bah alors là, je pouffe. Ah, je pouffe. Vous voudriez me mettre en difficulté. Ah, vous feriez mieux de vous taire. Vous allez tomber dans le ridicule qui, contrairement à la bombe atomique, ne tue pas. Ah, bien sûr que la vérité sort du puits. Et car dans le puits, il y a de l'eau qui, comme je vous l'ai prouvé plus haut, est le révélateur absolu du tournis terrestre. Voilà pourquoi ces deux affirmations qui paraissent contradictoires ne le sont pas. Et c'est sans doute l'intuition de cette vérité qui... je m'adressais à Pochet, il faut dire. Je vous explique, amis auditeurs. Là, je m'adressais à mon ami Pochet, comme beaucoup de mes courriers. Donc, c'est sans doute l'intuition de cette vérité qui vous guida, disais-je à mon ami Pochet, dans la confection d'une de vos chansons qui abordait ce problème, quoique sous un angle légèrement différent. Quoi qu'il en soit, je préconise donc que chacun de nous soit équipé d'un éthylomètre dès la naissance. Une sorte d'implant qui nous permettra d'être informés et de faire en sorte de maintenir en permanence un taux d'alcoolémie de 0,5 degrés. Voilà. Ainsi, selon nos activités, nos facultés d'absorption ou d'élimination, pourrons-nous entretenir au mieux ce taux, hein, un ou deux verres par heure devraient suffire après, bien sûr, la dose matinale et obligatoire de 3 verres ballons de taille normale. Ainsi, les effets du tournis terrestre et celui de l'humain seraient en parfaite correspondance, créant ainsi les conditions de cette harmonie que nous recherchons tant. Car cela aurait aussi sûrement une conséquence, celle de mettre fin pour un moment à la crise de la viticulture. En effet, si cette ordonnance était appliquée, chaque individu boirait au moins 2 litres par jour, soit 730 litres par an, ce qui nous donne 433 millions d'hectos pour les quelques 60 millions de Français et 43,8 milliards d'hectos pour une population mondiale de 6 milliards d'individus. Et encore, je suis modeste là. Et cela juste pour la consommation légale obligatoire. Hein ? Quand on pense à toutes les autres raisons qu'il y a de boire un coup, eh ben cette consommation devrait pour le moins doubler. Ah, elle n'a pas fini de tourner la Terre. Hélas, nous savons que cette initiative sera l'objet d'une campagne de dénigrement ourdie par les lobbies de l'eau minérale et du Coca-Cola réunis. Ah, je me demande dans mon fort intérieur quels intérêts, outre ceux bassement commerciaux de la vente de leurs produits, peuvent-ils y trouver ? Un peuple ayant le tournis est-il plus malléable ? Hein ? Et dans ce cas, on pourrait comprendre qu'un dictateur mégalo, propriétaire de sources ou d'usines à coca, renie Dieu et le vin pour avoir le pouvoir absolu, car... il est dit « la télécommande ». Mais lutter contre le vin seulement, je comprends pas. Oh mais ouais, grand naïf que je suis, bon sang. Mais ils ont mis au point la pilule contre le mal de terre, celui-là même que l'on découvrira le jour où on les cessera de boire. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si nous ne buvons plus de vin, la terre ne tournera plus. Donc plus besoin de cette soi-disant pilule miracle. Sans doute d'abord, la terre cessera-t-elle de tourner sur elle-même, ce qui ne manquera pas de nous apporter quelques inconvénients. Ah, je vois ici déjà les riches dispersés sur la face éclairée, pendant que les cohortes de pauvres gèleront sur l'autre face. Pour rendre leurs conditions de vie plus humaines, on doublera les horaires et les cadences de travail afin qu'ils ne gèlent pas, les pauvres. Tout bon travailleur aura droit à un séjour d'une durée proportionnelle à ses mérites sur la face éclairée. Ceci, tout au moins dans les premiers temps, car il était supposé que cette face éclairée finira par atteindre une température difficilement supportable pour un être humain tel que nous le connaissons actuellement. De même, la face cachée, si j'ose m'exprimer ainsi, deviendra un terme de plus en plus froide. Et on peut penser que les cadences les plus infernales ne suffiront pas à préserver la plèbe du froid stellaire. On peut donc aussi supposer que notre planète cessera tout simplement tout mouvement rotatoire. Et là, je n'ai vraiment aucune idée de ce qui pourra bien se passer. Bref, pour faire court, il convient de prendre vite, très vite, les mesures qui s'imposent. Moi, je viens pour ma part d'ouvrir une bouteille de corbière fort sympathique. Et il faut tout faire pour que cet avenir ne soit pas le nôtre et celui de nos enfants. Buvez du vin.
Je me réveille, j'ai du mal à quitter Morphée pour aller justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ça n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligée de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Je le croise devant l'usine dans sa belle BMW, dans sa Porsche ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je carre mon bello depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a les fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il a des potes en politique, des plantes grasses à arroser, de celles qui jamais ne lui piqueront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député, ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer, peu importe, puisque l'erreur, c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
Jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce ce sont souvent ceux-là encore qui nous dirigent et qui n'ont rien fait.
Eh bien, je vais vous faire part d'un texte dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois. Ben oui, souvenez-vous, sur les émissions, sur ce fameux feuilleton « On est plus tôt que tu ne penses », je vous avais expliqué que ce feuilleton était né d'une série de jeux de mots sur les taux, mais que son origine était un petit texte qui avait été écrit sur une série de jeux de mots sur les mots. Donc, je vous en ai parlé de ce texte, mais je ne vous l'ai jamais lu. Donc là, forcément, je vous le lis. Les mots. Une étude ethnologique, un petit rien délirante. Voilà, les mots sont une tribu peu connue d'Afrique subéquatoriale. Les mots sont grands, beaux, bons, gros pour certains d'entre eux. Les mots passent leur temps à ne rien faire, selon nos critères occidentaux. Leur seule occupation, en dehors des obligations telles que manger, boire, dormir, faire l'amour et la vaisselle, est de faire de l'art. Ah oui, l'art, ils le pratiquent sous toutes ses formes. Musique, danse, théâtre, peinture et sculpture, rien ne leur est étranger. Enfin, seul le cinéma peut-être, mais peu importe. L'art est leur raison de vivre. Leurs techniques raffinées, quoique primitives, leur permettent d'exprimer n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Non, c'est toujours, quelle que soit la forme, quelle que soit la technique ou la matière utilisée, un cri de protestation, un non intégral. Oui, l'harmonie. Une longue étude effectuée et relatée par Sir Andrew Tonick, qui a été publiée en 1876 par la British London Academy of Exploration of World Over England, sous le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, nous fait part d'une découverte importante. Les mots sont une très ancienne peuplade. Depuis toujours, ils sont en contact avec les peuples de la région et principalement les Égyptiens. À tel point que leurs histoires, leurs civilisations sont intimement mêlées. Atonik découvrit et prouva que cet énigmatique grain de café que l'on retrouve dans toutes les tombes égyptiennes provenait du pays Mo. Son rôle, jusqu'alors inconnu, était, selon Atonik, de servir de réceptacle au Ka. Ben, le Ka, comme chacun sait, est une sorte d'esprit qui reste dans la tombe, selon les Égyptiens. En fait, c'est grâce à ce grain de café que le Ka peut continuer à exister, à entendre, à voir, selon Atonik. Selon Atonik qui disait « C'est grâce au café que le Ka oua ». Les recherches datent. Nick, à défaut de lui faire découvrir un bar, ce qu'il regretta, lui permirent de mettre au jour de nombreux usages des mots. Il découvrit que les mots aiment le bruit. Ils se réveillent, pourrait-on dire, en fanfare. Ah, Nick a pu constater de ses yeux et de ses oreilles, sauf en période de grosse chaleur où il écumait le pays à la vaine recherche d'un bar ouvert, que ce bruit croissait au fur et à mesure que la journée s'écoulait. Tant et si bien qu'arrivé en fin de journée, il était impossible de supporter ce vacarme. Pour résister, les mots eux-mêmes devaient se protéger. La nuit venue, il se mettait sur la tête une sorte de coiffure enveloppante. Une journée des mots résumée par Atonic lui-même. Voilà, il dit, page 2698 de son ouvrage, qui a été publié en 1876 par la British London Academy of Exploration of World of Erangland, sous le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Les mots tôt font du bruit, les mots tard portent un casque. On ne peut pas être plus clair. Sur le plan religieux, une chose est sûre. Les mots nient l'existence du ka. C'est d'après eux une invention des prêtres égyptiens. Et pour démontrer cette non-existence du ka, ils tiennent, selon Atonic, le raisonnement suivant. Le vivant, disent-ils, ne peut être constitué que d'un corps et d'une âme. Le ka, s'il existait, ne serait qu'un résidu de l'esprit qui, va faire juger par les dieux. Oui, en ceci, il ne variait absolument pas des Égyptiens. Si l'esprit peut faire un résidu, pourquoi celui-ci ne pourrait-il pas en produire un lui-même ? Le ka, en quelque sorte. Les prêtres mots le disaient eux-mêmes, « Si nous croyons au caca, nous sommes dans la merde. » Mais n'entrons pas dans les détails, et pour résumer, « L'harmonica », dit Atonic dans ses livres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car en 1914, alors qu'on avait d'autres chats à fouetter, un conférencier anglais du nom de Martin en français, vint faire une conférence sur Sir Andrew Tonic. Cet Anglais, comme beaucoup de ses congénères, avait de grandes dents et un grand défaut de prononciation. La sténographe, qui nota la conférence, ne maîtrisait-elle pas assez bien la langue anglaise ? Ce brave monsieur Martins ou Martin avait-il un accent si épouvantable ? Fit-il sa conférence en français ? Auquel cas il serait appelé vraiment Martin ? Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il qu'au lieu de décrire, enfin cette sténographe, l'harmonica dit atonique, dans le texte figure l'harmonie cadi atomique. C'est pas du tout la même chose. Non, écoutez bien. L'harmonica dit atonique. Alors que l'harmonie cadi atomique. Ah ouais. Et le texte de cette conférence tomba dans l'oubli jusque dans les années 50. Et là, un obscur conseiller de la présidence américaine lut cette phrase. Et ses conseils transmis au président eurent le résultat que nous connaissons. Au cours des années de présidence de Eisenhower, vous savez, on assista à la fois à la création et au développement des grandes surfaces, et à la course aux armements à grande puissance de destruction. Ce n'est qu'après sa retraite, en 1960, où il fut battu par Nixon, qu'Ike Eisenhower trouva curieux que le mot « caddie » fasse partie du vocabulaire des mots. Comment, se dit-il, un mot pourrait-il connaître les supermarchés ? Comment un mot pourrait-il connaître le golf ? Car il ne faut pas ignorer que depuis la colonisation, les mots sont catholiques. Maintenant, le mot naît du pape. Le golf, lui, il est anglais. Ayant encore quelques relations très haut placées, Ike fit faire une rapide enquête et les forces, pour une fois réunies de la CIA et du KGB, finirent par découvrir le manuscrit original de Sir Andrew Tonick. Le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, publié en 1876 par la British London Academy of Exploration and World Over England, au fond d'un réduit secret du palais de Birmingham, palais où les Anglais, c'est bien connu, entreposent tout ce qui ne sert plus à rien. « Big God !» s'écria Ike. Il but précipitamment son whisky et remplit son verre de rechef. Et ce n'est que plus tard, dans la soirée, qu'il regagna son logis. Une fois arrivé, il raconta tout à sa femme Monica. Tout. Il raconta Sir Tonick, les mots, les Égyptiens, le cas, le conférencier, la sténographe, le KGB, et tout ce qui avait conduit à cette terreur monumentale. Tout. La construction des supermarchés, la bombe atomique. Et sa femme, au bout d'un moment, lui demanda « Mais quel est le secret des mots ?» Et Ike répondit « L'art, Monica. L'art, Monica. » C'est ce que dit à tone Ike. Oui, je sais, c'est nul. Oh là 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 là.
Un peu merdeux ton adieu, c'est vraiment le plus merdeux des adieux. Des adieux j'en connais pas d'heureux, mais le tien c'est vraiment le plus merdeux.
D'abord c'est à moi qu'il s'adresse, sans souci de souffrance et du reste. Il s'en tape de mes états d'amour, il me claque à la gueule sans détour. Il ne me regarde pas en face, il s'annonce puis vite fait volte-face. Serait-ce donc que mon regard l'émeuve, ou est-ce toi qui ne supporte pas l'épreuve? Il est un peu merdeux ton adieu, c'est vraiment le plus merdeux des adieux. Adieu, j'en connais pas d'heureux, mais le tien c'est vraiment le plus merdeux. Je t'écoute me prendre en pitié, prendre ses cons lorsqu'il faut laisser, retire ses gants par trop inutile, en prendre avec moi comme c'est futile. Mais il est un peu merdeux ton adieu, c'est vraiment le plus merdeux des adieux. Des adieux j'en connais pas d'heureux, mais le tien c'est vraiment le plus merdeux. te préfère dans tes silences, immobile comme deux cœurs arrêtés, déposés là comme des distances entre nous pour l'éternité. Mais il est un peu merdeux ton adieu, c'est vraiment le plus merdeux des adieux. Oh, il est un peu merdeux ton adieu, c'est vraiment le plus merdeux des adieux. Ton adieu. Il est un peu merdeux ton adieu. Ton adieu. Ton adieu. Ton adieu. Ton adieu. Ton adieu.
Eh bien, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je vais dire un grand merci à Nico qui toutouille les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.